Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant! Vous avez mis votre réveil dimanche juste avant 7h du matin et vous avez pesté un long moment en attendant. Bienvenue au club! Pour autant, on a quand même vécu au Japon un Grand Prix à rebondissement et qui a donc finalement sacré une deuxième fois Max Verstappen, champion du monde. Stéphane, toi aussi t'as sacrifié quelques heures de sommeil?
Oui, tout à fait, mais écoute, on a un beau champion sur un beau circuit, c'est ce qu'on espère.
Exactement. Verstappen, double champion. Et après, et ben justement, victorieux de la 18e épreuve de la saison à Suzuka, au Japon, devant Perez et Leclerc, Max Verstappen est donc sacré champion du monde avant les 4 dernières épreuves de cette saison. On reviendra justement sur le parcours et puis sur ce qu'il peut faire d'ici la fin de saison. La FIA boit la tasse à Suzuka. Ce Grand Prix qui a été copieusement arrosé, retardé, arrêté. On a appris le nom du champion du monde un peu de manière inattendue. Mais le plus insupportable, c'est d'avoir vu une dépanneuse en piste. On va évoquer ces éléments qui nous obligent une fois de plus à en déduire que les leçons n'ont pas toutes été tirées du passé. Gasly chez Alpine, la F1 bleu, blanc, rouge pour de bon ? Avec un point d'interrogation, c'est la question qu'on va se poser. On vous l'avait dit la semaine passée, ça a été donc confirmé samedi matin. Pierre Gasly rejoindra Alpine à partir de la saison prochaine. Après l'imbroglio Alonso Piastri de cet été, on fera le point pour le compte du constructeur français qui se retrouve avec deux tricolores au volant de ses deux autos. Que vaut le label tricolore aujourd'hui en Formule 1? On en parlera justement avec Stéphane. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec Stéphane Vrignot en abordant cette deuxième couronne décrochée par Max Verstappen après la victoire du Néerlandais lors du Grand Prix du Japon à Suzuka dimanche dernier. On reviendra sur la façon dont ça s'est déroulé en évoquant plus spécifiquement la FIA. Max Verstappen, champion du monde avec un changement de règlement technique entre ces deux titres. C'est quand même une sacrée performance. C'est d'autant plus méritoire cette deuxième couronne pour toi, Steph.
Écoute, oui, il rejoint quelques pilotes, je crois qu'il y en avait 7 auparavant, qui ont réussi dans la foulée de leur premier titre à doubler. Il est le premier en fait à faire ça avec un changement de réglementation. En tous les cas, je pense à Vettel, le dernier champion qui avait doublé la mise avec Red Bull 2010-2011. Il y avait Schumacher avant 94-95, mais on était dans une forme de continuité. Et là, il y a quand même eu une révolution. Ils ont tout remis à zéro. C'était le retour des voitures à effet de sol. Red Bull était au top, ils y sont restés, c'est comme ça le tour de force. Et puis souviens-toi, l'année dernière, Verstappen était cuit. Je trouve pas d'autres mots. Franchement, il avait dit là maintenant je me pose. On n'a plus entendu parler de lui pendant 10 ou 15 jours parce qu'il était juste fatigué. Il avait dit si c'est tous les ans comme ça, je veux pas faire une longue carrière en Formule 1.
Oui, c'est sûr. Il y avait une tension nerveuse l'année dernière.
Et il était épuisé. Voilà, il était à bout. Et il s'est remobilisé quand même, clairement. Horner a dit en début de saison que ce titre avait enlevé un poids de ses épaules et qu'il avait piloté beaucoup plus libéré. Et moi, ce qui m'a surpris quand même, par rapport aux réactions de Max Verstappen, du clan Red Bull, c'est que je m'attendais un petit peu encore à l'ultime règlement de compte, on va dire, sur le mode. L'année dernière, vous m'avez accusé d'avoir été champion du monde un petit peu sur un coup de dé, presque d'avoir volé le titre. Bon, et puis voilà le résultat. C'est la mise au point, terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Sur le mode un petit peu qu'on leur connaît de temps en temps, revanchard, rancunier, on sait qu'ils sont très comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'ils entretiennent la motivation. Mais cette année a été beaucoup plus lisse face à Ferrari. Et finalement, tout le monde était heureux. Et c'est un peu comme ça qu'on les aime. Et c'est la saison parfaite, je dirais.
Exactement. Alors, très très bonne nouvelle pour Max Verstappen et pour Honda d'avoir été titré sur ce circuit de Suzuka, qui est la propriété de Honda. On l'a quand même vu, alors malgré les péripéties de ce Grand Prix, malgré un départ un petit peu laborieux, mais il a tout de suite repris l'ascendant sur Charles Leclerc. Derrière, une fois que la course a été lancée, même si on a eu finalement une demi-course, il était au-dessus du lot. Donc finalement, il a justifié sa couronne.
Mais il attaque surtout, il serre, tu as vu comment est-ce qu'il l'oblige pour prendre, pour enrouler à l'extérieur avec une certaine confiance. Ça veut dire que là, c'est le retour du pilotage à la dure. Il n'y a pas eu de friction cette année entre Leclerc et Verstappen, peut-être parce qu'ils ont su s'effacer l'un et l'autre de temps à autre. Je pense Verstappen dans le courant de l'été, Leclerc n'a pas été très agressif. Et il a trouvé un adversaire qui avait presque peur, je dirais, du contact. Alors que j'aurais peut-être, moi, tenu et j'aurais continué, si j'avais été Leclerc, d'essayer de l'enfermer un petit peu. Mais il n'est pas allé jusque-là. Bon, alors, une fois que Verstappen était en tête dans le premier virage, c'était fini.
C'était fini, ouais. C'est clair. Il y a eu quand même quelques belles passes d'armes à Miami, hein, où il avait notamment emmené Leclerc à la faute. Alors, on s'est posé la question en préparant ce podcast. C'est quoi le moment marquant, finalement, dans cette saison 2022 Stéphane, toi, il y a un moment dans la saison où tu te dis, ben là quand même on a vu quelque chose de Max Verstappen.
Un Max Verstappen différent. On l'a vu renoncer au combat en Autriche. Alors c'est incroyable parce que le samedi, il domine vraiment de la tête et des épaules, il écœure Leclerc. Et le dimanche, changement de décor complet, c'est Leclerc qui use moins ses gommes. Et puis lui, en fait, il s'aperçoit qu'il a... Il pèse pas dans le duel.
Ouais, le rapport de force, c'est pas bon.
Il s'incline trois fois. Et trois fois, Leclerc arrive derrière. Il le laisse passer sans résister, sans obstruction, sans geste défensif qu'on lui connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a appris à gérer les temps faibles dans une saison.
Oui, ce qui est particulier, c'est que tu choisis que finalement, comme moment symbolique de cette saison, une deuxième place face à Charles Leclerc.
Oui,
c'est ça qui est
un
petit peu particulier.
Il a eu... Finalement, sur l'ensemble de la saison, à partir du quatrième Grand Prix, une voiture fiable, une voiture qui était quasiment imbattable. Et quand il est parti en tête, il a dominé. Il a pris souvent l'ascendant de façon assez nette. Et ça a été spécialement le cas juste un petit peu avant la pause,
hein. la
pause estivale. Donc, c'est pas là qu'on l'a vu vraiment, je dirais, gérer ou montrer quelque chose de différent. L'année dernière, c'était vraiment le combat rapproché, serré avec Lewis Hamilton. Et là, il avait un petit peu de marge et je l'ai trouvé presque raisonnable. Et c'est un Max Verstappen qu'on connaissait pas. Quand je dis ça, je pense à Jean-Louis Moncey. voilà, qu'on salue, qui dit que dans la course au titre, ce sont les points intermédiaires qui comptent. Il faut savoir en fait être deuxième ou troisième. Moi, je dirais qu'il faut savoir gérer les temps faibles. Tout simplement, il y a une ou deux fois dans la saison où il n'avait pas la meilleure voiture. Il a compris, il a acté. Et puis, voilà, ce dimanche à Spielberg, ouais, ça fait une deuxième place, 18 points, plus le meilleur tour en course. Donc, il ne cède que 6 points. Ça, c'est l'intelligence du nouveau Verstappen, le Verstappen 2.0.
Alors moi, un peu à l'opposé, le moment qui m'a, je dirais, vraiment le plus marqué, où tu te dis, ouh là, ça va vraiment être compliqué, c'est une victoire. C'est moins original que toi, Stéphane. C'est la victoire de Spa, où là, clairement, rappelez-vous, hein, alors, il avait déjà gagné juste avant la trêve en Hongrie, en ayant fait un tête-à-queue, en plus, s'il vous plaît. Trêve estivale, il revient à Spa, et là, à Spa, il marche littéralement sur ses adversaires. Rappelez-vous, il part 14e sur la grille pour avoir changé des éléments moteurs qui étaient hors quota. Et il remonte, tout en étant sage. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti à l'abordage au premier virage. Il avait déjà gagné quelques places, mais on l'a senti finalement assez prudent. Serein, il sait qu'il va plus vite que ses adversaires. Et il remonte comme ça pour s'imposer. Là, honnêtement, quand on voit cette remontée, On s'est dit, bon, là, clairement, on l'avait dit d'ailleurs dans les fous du volant à ce moment-là, le rapport de force a changé. Ça n'est plus Ferrari qui a la meilleure voiture en course, c'est bel et bien Red Bull. Et quand vous avez ce qui est probablement le meilleur pilote du plateau en ce moment dans la meilleure voiture, ben, vous savez que la messe est dite.
Et Leclerc, d'ailleurs, l'a reconnu, c'était vendredi ou samedi. On lui a demandé, non, même peut-être un petit peu avant les premiers essais, on lui a demandé où est-ce qu'il avait perdu le titre. Finalement, il a dit en Belgique. Mmh. En Belgique, parce que ils sont arrivés avec des pièces, avec un moral tout neuf, je
avec
dirais.
Avec des ambitions.
Voilà, en disant, globalement, bon, on sait ce qu'il en est allé sur cette première partie de saison, mais maintenant, l'opération reconquête commence. Et là, Charles Leclerc dit, bah, j'ai réalisé après la Belgique que je n'allais pas gagner le titre mondial. Mmh. Nous avons vu l'écart de performance avec la Red Bull. Et c'est un écart qu'on n'avait jamais vu jusque-là, depuis le début de saison. Il les a écœurés et ouais. Spa, c'est vraiment le tournant.
Exactement. Alors, ça fait deux couronnes pour Max Verstappen. Maintenant, il y a des records qu'il peut éventuellement battre. Alors, on ne va pas vous abreuver de chiffres dans tous les sens parce qu'on trouve qu'il y en a eu beaucoup qui ont circulé. Quand même, du côté de Suzuka, Max Verstappen est allé chercher sa 12e victoire cette saison. Le record, c'est 13 en une année, record partagé par Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Schumacher en 2004, Vettel en 2013. Il reste 4 Grands Prix. Ce record, il peut tomber parce qu'honnêtement, il peut s'imposer sur chacun des quatre dernières, chacune des 4 dernières épreuves, Stéphane.
Il a 22 Grands Prix quand même. Cette année, l'année
c'est la différence, ouais. Avec voilà. 2004 où il y en avait 18 et avec 2013 où il y en avait 19.
C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'en deux grands prix, il peut s'attribuer ce record par la force des choses, on va dire. Mais le taux de réussite quand même de Schumacher, c'est plus de 72%. C'est super impressionnant. Ça veut dire que pour le surpasser, Verstappen doit gagner les 4 dernières courses. Mais ça, ils en sont capables.
Oui.
Helmut Marko a dit que c'était l'objectif. En fait, ils veulent vraiment tout écraser parce qu'ils ont souffert quand même. Hein. Oui. De la domination de Mercedes. L'année dernière, ils gagnent le titre pilote, mais ils laissent le titre constructeur. Et cette année, ils veulent y mettre les formes, avec même la deuxième place pour Pérez. Mais l'objectif, surtout, c'est de gagner les 4 dernières courses avec Verstappen. Verstappen qui a gagné 12 des 14 Grands Prix pour Red Bull cette année. Donc, je dirais que oui, il peut le faire. Oui, tout à fait. Les circuits encore. Bon, bah, de toute façon, quel circuit aujourd'hui n'est pas favorable
à la Red Bull ?
À la Red Bull, voilà. Ou alors à Verstappen. Il n'a simplement pas bien performé sur les deux circuits en ville, Monaco et Singapour, pardon, qui sont revenus à Pérez. Mais oui, on le voit terminer en trombe un petit peu façon Vettel en 2013.
Alors. On a parlé du nombre des victoires sur une saison. Il y a des chiffres quand même qui symbolisent aussi la domination de Max Verstappen durant cette saison 2022. Le rapport des pole positions entre Max Verstappen et Charles Leclerc, finalement, il donne une indication quand même très très forte, Stéphane.
Bah, c'est le baromètre finalement, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles,
mais... Je suis pas 100% d'accord. D'abord, on parle des chiffres, Stéphane, après on argumente.
J'en reviens à ce que tu avais dit, justement.
Justement. Voilà. Bon, il y a eu 5 pole positions pour Max Verstappen. Il y en a eu 9 oui. pour Charles Leclerc.
Ce qui t'avait fait dire que la Ferrari est une voiture pour la qualif, la voiture du samedi, et la Red Bull, une voiture du dimanche. Ça reste plus que jamais
une voiture
vrai.
De course.
Voilà. Et Verstappen, bah, il fait 5 pole positions, qu'il transforme en 4 victoires quand même. Donc, le ratio est énorme, 80%. Et Leclerc, bah, c'est 9 pole positions pour 2 victoires à l'arrivée. Alors, il y a eu 3 abandons. Hein. Il était en tête 2 fois. Il y avait un abandon, 2 abandons mécaniques moteur, plus une erreur de pilotage. Mais le ratio est extrêmement faible. Et avec ça, tu ne peux pas être champion du monde, de toute façon. Et il y a aussi quelque chose qui symbolise ça, ce rapport de force, cette baraka. En fait, il y avait quelque chose d'irrésistible du côté de Verstappen cette année. C'est que les 3 dernières pole positions, il les fait contre Charles Leclerc avec cet écart. Regarde bien, 29 millièmes, 21 millièmes et 10 millièmes. Ouais. C'est des écarts extrêmement faibles. Et c'est toujours,
En préparant ce podcast, je t'ai dit, en fait, la pièce, elle retombe toujours de son côté.
Exactement.
Quand elle est en équilibre, hop, et ben ça tombe de son côté. Mais ça, c'est la chance du champion aussi.
On
en a souvent parlé pour Lewis Hamilton.
Oui, et maintenant, c'est Verstappen, ce qui est encore plus inquiétant. Je pense qu'on est effectivement parti pour quelques années. Là, il a un plein de confiance absolument hallucinant. Et puis, il y a enfin Une dernière chose, je trouve, moi, qui explique quand même cette domination, c'est qu'il a la meilleure voiture, mais il est aussi dominant à l'intérieur de son équipe, où il a un vrai numéro 2, on va dire, c'est Sergio Pérez. Ça se voit en qualification, le rapport de force, bon, c'est 13-5 pour Verstappen, c'est quand même net. Ça fait un peu penser aussi, on a parlé de ces deux doublés 2021-2022, ça me rappelle Schumacher, en fait, 94-95, un titre controversé en 94 dans les conditions qu'on sait, Adélaïde, un accrochage avec Damon Hill. 95, il assomme tout le monde. Ouais. Donc c'est un petit peu ça, la Verstappen cette année était en mode Schumacher quand même. Et puis, souviens-toi, Vettel aussi, Vettel est champion à l'arraché en 2010, et puis en 2011, il écrase tout. C'est la même chose avec un numéro 2, et là c'est pareil, ils ont vraiment reproduit le modèle du numéro 2 chez Red Bull au service de Verstappen, et avec en prime quand même aussi, on va dire derrière tout ça, pourquoi est-ce que Verstappen est numéro 1 et Pérez numéro 2? C'est Pierre Vacher, le directeur technique français, qui l'a expliqué, qui fait la voiture, qui est le second, on va dire, d'Adrien Newey, qui est le chef du bureau technique, qui est au-dessus de lui. Il a dit le facteur vraiment essentiel dans les performances en retrait de Checo Pérez, c'est vraiment l'équilibre de la voiture. Les évolutions qu'on a apportées au fil de l'année ont déplacé l'équilibre qui était d'abord favorable du côté de Checo Pérez, qui préférait cette voiture, vers Verstappen, à tel point qu'ils ont même fait un plancher n'a pas aimé, je dirais, depuis quelques courses, là, Verstappen, et qu'il le laisse de côté, qui a coûté très très cher. Eh bien, on fait rouler Checo Pérez avec, et ça se passe pas très bien. Mais bon, c'est comme ça.
Bon, sauf en ville. Sauf en ville, où Pérez, c'est un vrai spécialiste. Clairement, à un moment, on a donné les clés à Max Verstappen du côté de chez Red Bull en disant on mise tout sur lui et toutes les évolutions sont allées finalement vers ses affinités à lui. Ce qui est logique aussi, il était champion du monde en titre. Après, sur les datas, ça ne trompe pas.
Alors, une écurie par fierté, je dirais, ou par intégrité, par éthique, te dira toujours on ne fait pas une voiture spécialement pour quelqu'un, mais au fil de la saison, quand tu apportes des pièces qui bonifie les performances d'un pilote, bah tu vas dans ce sens-là.
Forcément, logique.
Et tu laisses de côté l'autre pilote, c'est tout. Et puis Pérez, je trouve qu'il a été un bon numéro 2 et c'est ce qui a aussi valorisé Verstappen. Dans quelques coups, il a été là pour faire le cobaye sur les coups de stratégie, en allant un petit peu en éclaireur. Ça a servi à Verstappen. Et puis en face, on l'a vu encore ce week-end, ils étaient deux Ferrari contre une Red Bull. Au départ, et puis Pérez double Sainz essaie de se refaire, là il en fait trop, il attaque, il sort, et puis à l'arrivée c'était Verstappen contre Leclerc, il ne pouvait même pas jouer à 2 contre 1, et ça se termine comme d'habitude par une victoire de Verstappen.
Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve quand même que c'était la saison de tous les dangers pour Red Bull, parce qu'ils avaient lutté vraiment jusqu'à la dernière course de la saison face à Mercedes en 2021, et le risque, c'était donc de se tourner trop tard, finalement, sur la préparation de leur voiture millésime 2022, piège dans lequel est tombé, clairement, Mercedes et Red Bull, qui avaient quand même eu des problèmes de fiabilité en début de saison. Ils ont très très vite réagi, très très bien réagi, déjà en fiabilisant, ensuite en augmentant très très vite les performances, et j'ai envie de te dire maintenant, là on a parlé du record du nombre de victoires pour la fin de saison, mais si on regarde un petit peu plus loin, moi je mets Verstappen favori pour 2023. Je sais pas ce que t'en penses.
L'année prochaine, on va retrouver des voitures qui ressemblent beaucoup à celles de cette année, en tous les cas pour les voitures réussies. Alors je ne doute pas vraiment que Adrien Newey, qui est l'adepte des petits pas, va prendre cette base-là et on va avoir une R18B l'an prochain, tout simplement. Une RB18B, pardon. C'est-à-dire une dérivée, vraiment, quand Mercedes va essayer de refaire sa voiture. Hein, ils ne savent pas encore comment, complètement, jusqu'à quel point aller. Et puis, Ferrari va peut-être devoir aussi changer beaucoup de choses parce que la voiture exploite mal les pneus, elle les dégrade trop vite.
Elle les dégrade même de plus en plus vite, on a l'impression.
Oui, tout à fait. Et alors, je dirais qu'à part Red Bull, il y a peut-être Alpine qui est maintenant sur un bon concept, qui va pouvoir développer cette voiture. On l'a vu ce week-end. Là, maintenant, ils sont sur une continuité et tous les autres vont presque repartir, non pas d'une feuille blanche, mais vont remettre beaucoup de choses en question. Donc, c'est la continuité qui va parler. Et Marco est en train de faire aussi chez Red Bull quelque chose d'important qu'il avait fait il y a quelques années. Il est en train de verrouiller tous les contrats des grands techniciens, je dirais de l'équipe technique. Et à peu près, on sait qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont les personnes clés dans une équipe en développement mécanique, aéro,
en stratégie,
qui sont très très importantes. Et ces personnes-là, il est en train de s'attacher à les renouveler, je dirais, pour assurer un succès, parce que Verstappen a signé jusqu'en 2028 et l'idée, c'est que tout le monde aille avec lui jusqu'en 2028.
Ouais, c'est ça. Et c'est un atout quand vous négociez avec des ingénieurs en leur disant tu es sûr d'avoir avec toi le pilote de référence pour les prochaines années. Bref, on est effectivement parti peut-être pour une période Verstappen. L'avenir nous le dira. Le deuxième axe qu'on voulait développer dans ce fou du volant post-Grand Prix du Japon, eh bien, ce sont toutes les péripéties survenues à la FIA pendant ce Grand Prix. On va évacuer rapidement ce qui s'est passé en Q3, mais quand même, cet écart de Verstappen pour empêcher Lando Norris de passer, convoqué chez les commissaires, il dit « Ah bah, je l'ai pas vu ». Bon, puis pour au final laisser entendre que bah, il avait fait exprès pour empêcher Lando Norris de passer.
Non, mais il a dit carrément, non mais c'est fantastique, Gilles. Verstappen a encore roulé la FIA dans la farine là-dessus, sur ce coup-là. On redit juste ce qui s'est passé. À la fin de la Q3, chacun veut ménager les écarts. Verstappen a un bon écart par rapport à Sainz qui est devant lui. Et puis, il voit Norris débouler dans les rétros. Et donc, là, tout de suite, il s'énerve. Parce que Norris, c'est celui qui prend les places un petit peu, qui s'intercale au dernier moment. Ça l'a agacé. Il met un coup de gaz. Il met la voiture en travers. Et là, Norris passe dans l'herbe. Bon, on a failli avoir un accrochage. Norris est passé. Et donc, là, enquête de la FIA. Et Verstappen dit, bon, pas de bol. Effectivement, j'ai accéléré au même moment que Norris. C'est d'ailleurs dans le compte-rendu de la FIA, le pilote de la voiture numéro 1 a décidé d'accélérer précisément en même temps que la voiture numéro 4.
Ça peut arriver.
Tout à fait. Non, mais c'est extraordinaire. Et tu revois les images, tu comprends que Verstappen, tout de suite.
Il n'y avait pas d'équivoque.
Et après coup, voilà. Et Norris passe aussi. Et Norris, il est assez soft dans sa déclaration parce qu'il est un petit peu aussi en porte-à-faux.
Et oui. Parce que, il y a une sorte d'agrément entre les pilotes de ne pas se dépasser.
C'est ça aussi qui est extraordinaire. C'est qu'après coup, Verstappen prend quand même une réprimande parce qu'il a fait quelque chose de dangereux. Et. Il dit, ben moi, de toute façon, je l'ai fait exprès. Ouais. Et puis, il fait la morale à Norris, carrément, en disant, on ne fait pas ça.
Après être sorti de la direction de course.
Et il dit, il y a un gentleman agreement. Alors là, franchement, Verstappen qui parle de ça, c'est extraordinaire. Alors qu'il roule comme un bulldozer sur les règlements, sur les articles de règlement. Bon, c'est juste génial. Ça valait quand même 3 places de pénalité, je dirais. Et là, FIA, on a conclu une chose. Toutes les infractions de ce type ont été sanctionnées par le passé par une réprimande. Et moi, je dis, c'est pas assez.
Exactement.
Parce qu'on a failli avoir un gros accident.
Alors, ce n'est pas le tout, parce que le plus grave lors de ce Grand Prix du Japon est de très très loin, et ce qui a choqué à peu près tout l'univers de la Formule 1, c'est la présence dimanche à la fin du premier tour, après l'accident de Carlos Sainz dans le virage numéro 12, d'un camion, d'un plateau pour venir récupérer la voiture de l'Espagnol, alors qu'il y a encore des Formule 1 en évolution sur la piste, en l'occurrence celle de Pierre Gasly qui passe là à ce moment-là, donc à un endroit où tout s'est un petit peu concentré, mais c'est comme ça qu'arrivent les gros accidents, hein. C'est des enchaînements de circonstances, mais la voiture de Carlos Sainz à moitié sur la piste côté gauche, la voiture d'Alexander Albon qui lui avait eu une défaillance, je pense, de boîte de vitesse,
il a dit le moteur,
ouais, voilà, qu'importe, sur la droite de la piste, et Pierre Gasly qui essaye de rejoindre l'arrière du peloton se retrouve là avec cette dépanneuse en bord de piste, et il est devenu fou. On a vu la colère du français. Il y a eu des messages aussi, hein, d'autres pilotes, Sergio Pérez, Lando Norris, qui ont dit c'est pas possible. En plus, sur un circuit comme Suzuka, où Jules Bianchi a eu son accident il y a 8 ans, ce n'était pas possible. Et là, la FIA a quand même... Alors, non seulement on se demande comment une dépanneuse peut arriver aujourd'hui comme ça en bord de piste, après tout ce qu'on a vécu, après l'accident qui finalement a coûté la vie à Jules Bianchi. Comment c'est possible?
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que là, on s'est dit la procédure se passe bien. L'accident au premier tour, quand Verstappen arrive sur, alors accident de Sainz au 12e virage,
virage numéro 12,
voilà, Et quand Verstappen arrive sur le virage numéro 15, hop, safety car. Et la safety car attend et elle va sortir au début du deuxième tour, au bout de la ligne des stands, et elle va se positionner juste devant Verstappen. Donc là, on est dans le respect total de la procédure. Et on se dit, bon, bah, tout se passe bien et ils vont entrer au stand. Et ils s'aperçoivent rapidement qu'il va falloir du temps pour dégager les deux voitures. Donc, on oriente les voitures, le peloton, vers la ligne des stands et ses drapeaux rouges, je dirais. Mais... sauf que dans ce deuxième tour, eh bien Verstappen, qui est juste derrière la voiture de sécurité, et le reste du peloton croise cette dépanneuse. Et on dit, en fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce qu'on pourrait se dire, le peloton est passé, ils ont pensé, la dépanneuse ou les gens qui la conduisent sont sortis parce qu'ils ont pensé que tout le monde était passé, qu'il ne restait plus de voiture, donc ils vont intervenir. Et alors, c'est là que Gasly arrive. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait... alors que les 20 voitures étaient en piste.
C'est là que c'est un délire. C'est totalement incompréhensible. Et à tel point que donc, la FIA a quand même fait un communiqué pour expliquer que voilà, il est normal d'aller récupérer les voitures sous régime de voitures de sécurité et de drapeau rouge en raison des circonstances particulières et compte tenu des commentaires d'un certain nombre de pilotes. La FIA a lancé un examen approfondi des événements impliquant le déploiement des véhicules de récupération lors du Grand Prix du Japon. On se pose quand même la question parce que qui a donné le feu vert au conducteur de cette dépanneuse pour aller en bord de piste? Est-ce que c'est la direction de course qui a dit oui, c'est bon, et à ce moment-là, c'est une grosse erreur? Est-ce que c'est le préposé à cette dépanneuse qui s'est dit bah, c'est bon, je peux y aller? Il faut aussi comprendre un petit peu on est au Japon, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Ben, les procédures, elles sont peut-être un petit peu loin aussi dans les esprits. Et c'est toute la difficulté qu'ont les directeurs de course de la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils arrivent pour diriger une équipe qu'ils ne connaissent pas. Imaginez que vous êtes responsable, vous, dans une entreprise, et vous arrivez le matin, et puis on vous dit, bah voilà, tu as plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines de personnes sous tes ordres. Ben, tu ne les connais pas, mais... c'est parti, là on démarre dans 3 minutes. C'est pas facile. Et là, il va vraiment falloir comprendre, est-ce que ça a été un excès de zèle du conducteur de la dépanneuse ou est-ce qu'il y a eu mauvaise communication, mauvaise décision, mauvais timing du côté de la direction de course? Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Et ce qui est, je trouve que finalement, celui qui a le mieux résumé la situation, parce que, pour vous dire, après avoir dépassé cette dépanneuse, Pierre Gasly a été, il y a un GPS sur la voiture, évidemment, sur l'AlphaTauri du français, a été pris à 251 km/h sur le reste du circuit. On estime que c'est trop, sans doute. Donc il a pris 20 secondes de pénalité après l'arrivée de la course pour cette faute. Ok, très bien, il a roulé trop vite, ok, très bien. Mais c'est George Russell, en fait, qui résume très bien en disant « c'est pas l'incident Pierre Gasly dans cette histoire, c'est le dossier FIA ». Et oui, parce que... c'est bien de s'intéresser à la faute de Pierre Gasly, mais il faut quand même comprendre l'énorme bourde qui a conduit à ce qu'il y ait une dépanneuse en bord de piste avec des autos qui n'étaient pas encore au ralenti sur une piste détrempée. Ça rappelle de mauvais souvenirs et il faudra savoir exactement ce qui s'est passé.
Et puis à l'arrière de la dépanneuse, il y a déjà quelqu'un qui est en train de manœuvrer. Oui. Ça veut dire que
il peut y avoir de mort.
Pierre Gasly peut le faucher dans l'accident. Parce que lui, il a dit qu'il a passé sur la zone à 250 km/h, ne voulait pas ralentir. C'est vrai que s'il freine, on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai noté une chose, Gilles. Tu as dit que la FIA a lancé l'enquête par rapport aux commentaires des pilotes. Ils ne se disent pas eux-mêmes.
Oui, il faut
y a quelque chose qui cloche. Et on a compris tout de suite qu'il fallait mettre ça au clair. Bon, donc c'est assez effrayant quand même. Ce qu'on réalise, c'est que toutes les... procédures encore sont pas, je dirais, normées parce que on a l'impression que c'est une partie d'improvisation à chaque fois. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une safety car, une medical car, il y a des équipes médicales d'intervention qui sont les mêmes sur tous les circuits et on fait un copier-coller d'une épreuve sur l'autre, mais pour ce genre de choses, il n'y a pas quelque chose en fait de clair. Même les véhicules d'intervention ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes procédures. Et là-dessus, il va falloir faire une révision complète. Alors, Gilles, c'est vrai qu'on a peut-être, dans un passé récent, même à Monza, montré notre impatience, ou en tous les cas, on s'est interrogé, mais on avait dit qu'il faut respecter la procédure, que ça prend du temps. et qu'ils avaient mis, je crois, c'était 5 tours entre le déclenchement de la safety car et puis le potentiel retour à la course pour pouvoir relancer les, enfin tout nettoyer, remettre le peloton en ordre et repartir. Et même pas, on a calculé qu'il fallait encore 2 ouais. tours supplémentaires. Donc on est un peu impatient dans ce cas-là. Et là, on veut faire un petit peu vite ouais. et puis on s'aperçoit que ça cloche. Donc,
c'est pas mieux.
Ça, voilà, ça cloche. Donc il y a un juste milieu à trouver. Revoir ça, c'est vrai, il y a quelqu'un comme François Sicard qui connaît très très bien la compétition, qui est maintenant à la direction monoplace, je dirais, qui s'occupe de toutes ces choses-là et de simplifier à la FIA les règlements. C'est vrai qu'il a beaucoup de travail encore et on a encore ouvert un dossier. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que, tu te souviens, Gilles, j'y pense là juste maintenant, Vettel, il se prend une amende à Melbourne parce qu'il avait pénétré sur la piste après un incident.
Il était reparti en scooter.
Enfin, voilà, et puis on lui colle une amende tout de suite. Enfin, c'est un délire. Ouais. Là, ils sont très très près du règlement quand il faut sanctionner. Par contre, quand c'est à eux d'agir, bon, c'est ça un petit peu le problème, et il se cache derrière le petit doigt quand même.
Voilà, bon, là, et évidemment, ça a marqué les esprits parce que c'est Suzuka et c'est là qu'a eu son accident Jules Bianchi. Donc, entre Monza, où nous on s'était plaint que ça avait été trop long, et Suzuka, où là, clairement, la dépanneuse est rentrée trop vite, il faut effectivement normer tout ça. Il y a, pour vous dire, les équipes de télévision, elles voyagent avec la Formule 1. C'est le réalisateur à ses caméramans, et on est quand même surpris qu'il n'y ait pas aussi du côté des commissaires de piste. Alors on peut pas faire voyager tous les commissaires de piste parce que c'est des dizaines et des dizaines de personnes, mais quelques référents quand même, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait voilà une solution comme ça avec effectivement voilà quelques référents commissaires de piste pour aller dans les endroits un petit peu chauds et surtout pour gérer ce genre d'intervention, parce que agiter un drapeau, c'est une chose, faire intervenir une dépanneuse en bord de piste, ça peut avoir des conséquences énormes, et ça, il faut vraiment que ça soit encadré et, comme tu le disais, normé par la FIA. Et ben c'est pas tout ce que nous a fait la FIA pendant ce Grand Prix. En conclusion, on pensait qu'il restait encore un tour, et ben non, le drapeau à Damien a bel et bien été agité à Max Verstappen un peu sur le tard, à tel point c'est qu'il a quand même mis un certain temps à comprendre que le Grand Prix était alors, terminé.
Et un pilote en tête, ou quel que soit le pilote, il ne regarde pas le drapeau à Damien. On lui annonce le nombre de oui. tours. Lui, s'il sait qu'il reste un ou deux tours, il ne va pas scruter au poste de commande pour savoir s'il y a effectivement un drapeau à damier. Mais à partir du moment où il est déployé, la course est terminée.
Exactement. Alors, il y a eu ça. Et puis, il y a eu en plus l'attribution des points à la fin. Et là, alors, on va dire que le règlement a été appliqué. C'est une nuance du règlement qui avait un petit peu échappé à tout le monde, et y compris au patron d'équipe, puisque même chez Red Bull, on ne savait pas si finalement Max Verstappen était champion du monde. Andreas Seidel a dit d'ailleurs hein, que finalement la mouture finale du point de règlement, il ne contestait pas, le patron, l'un des responsables de chez McLaren, il ne conteste pas la validité de l'article, mais il dit c'est pas dans cet esprit qu'on avait modifié le règlement à la suite du Grand Prix de Belgique l'année dernière, où en fait on avait établi un barème. Si on faisait 25%, 50%, 75% de la distance, bah on marquait au prorata le nombre de
à
points.
À peu près, c'est ça. Le but, c'était aussi d'éviter des demi-points, mais ça, c'est accessoire. Mais je trouve que dans l'esprit, c'était plutôt bien.
Et ça avait été mais plutôt plébiscité.
On s'aperçoit, en fait, il y a un truc un petit peu bizarre, c'est qu'on a deux barèmes différents selon que la course est interrompue au début ou à la fin. C'est aussi simple que ça. Si elle est interrompue au début et qu'elle reprend, c'est une course normale, et je dirais qu'à partir de 50% de la distance couverte, c'est la totalité des points qui rentrent en jeu. Et si on s'arrête dimanche, effectivement, au drapeau rouge, c'est-à-dire que on vous parle de course suspendue, parce que la course est toujours suspendue, on l'arrête au drapeau rouge en espérant la relancer, et puis en fait on ne peut pas parfois, et donc ça devient un drapeau rouge définitif et un arrêt.
Ça veut dire qu'à nombre de tours identiques, voilà, on peut avoir une course où on attribue la moitié des points.
Voilà, c'est ça. S'il y avait eu effectivement dimanche un drapeau rouge au 28e tour, à la fin du 28e tour, c'était
la moitié des points.
Voilà, le barème pour entre 50 et 75% de la distance couverte. Donc ça aussi, c'est franchement, c'est une usine à gaz.
Ouais.
Et les gens n'y comprennent rien. Et comment est-ce que tu veux, je dirais, rendre plus populaire un sport en expliquant des choses comme ça, quoi.
Qui n'est pas lisible. Là aussi, il va falloir travailler un petit peu. En revanche, félicitations pour la rapidité d'exécution de la pénalité de Charles Leclerc, hein, qui a court-circuité la dernière chicane. Quelques minutes plus tard, la sanction est tombée. 5 secondes de pénalité, ça avait passé Charles Leclerc de la deuxième à la troisième place. Hop.
Ah oui, c'est...
Alors, on s'était plaint à Singapour qu'ils avaient mis plus de 3 heures pour donner 5 secondes de pénalité à Sergio Pérez. Ah bah, en une semaine, on a progressé quand même. On est passé 3 heures à 3 minutes. Belle progression. Félicitations, messieurs, dames de la FIA. C'est bien. Là, on a retenu les leçons. Il y a 2-3 autres points sur lesquels il faudra les retenir. On en termine. Avec ce point sur la FIA pour vous dire que l'audit qui avait été fait sur les comptes de chaque équipe pour savoir si elles avaient respecté le cap budgétaire avait été repoussé à ce lundi post-Grand Prix de Suzuka. Bon, finalement, c'est 8 équipes sur 10 hein, qui ont eu leur certificat de conformité budgétaire. Ça devrait se solder sans trop de problèmes pour Aston Martin. Red Bull est sur un dépassement qui est autour des 5% du budget. Et en gros, ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est qu'il va y avoir une pénalité au classement des constructeurs, pénalité qui n'aura pas de conséquences sportives. Voilà, c'est à peu près ce qu'on vous disait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va enlever des points au classement des constructeurs à Red Bull, qui de toute façon était largement devant Ferrari, et ça ne changera rien. On est d'accord ?
Bah oui, ça va se terminer comme ça.
Exactement. Le troisième axe qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans Les Fous du Volant, eh ben c'est évidemment l'officialisation de l'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine, où il rejoint donc Esteban Ocon. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, on est plutôt content d'avoir eu une petite longueur d'avance, donc en remplacement de Fernando Alonso, lui qui partira chez Aston. C'est le premier duo de pilotes français dans une équipe française, je précise, en Formule 1, depuis Olivier Panis et Éric Bernard, qui étaient chez Ligier en 1994. Alors, on est d'accord, Stéphane, pour Alpine, c'est la solution pour sortir par le haut du Piastri Gate hein, de l'été. C'est plutôt une très très bonne solution qu'a trouvé Alpine.
Pierre Gasly était le meilleur pilote sur le marché. Malheureusement,
il n'était même pas sur le marché en plus.
Oui, non, mais tout à fait. Potentiellement, c'est vrai qu'il fallait racheter un contrat, donc il n'était pas libre. C'était compliqué. Les hypothèses Ricciardo, etc., ce n'était pas la peine. Au passage, d'ailleurs, il y avait la candidature de Mick Schumacher qui était avancée par Esteban Ocon, qui s'est fait un petit peu renvoyer dans les 22 par Laurent Rossi en disant « Là, tu ne donnes pas ton avis, merci beaucoup. » Et d'ailleurs, à cette époque-là, quand Ocon plaide pour Mick Schumacher en 2023, Mick Schumacher, à la télévision, on lui pose des questions en français, il répond en anglais. Voilà, donc moi, je suis son manager, je l'appelle pour lui dire « T'as fait une erreur ». Et je suis le manager d'Alpine, je dis bon, on ne prendra pas de toute façon parce que tu n'es pas prêt à te fondre dans le moule, alors qu'il parle très très bien français. Bon bref, je referme la parenthèse, mais...
Bon, c'est ce que fait Alonso, hein, il répond en anglais, hein, Alonso.
C'était la solution, je dirais, un petit peu romantique dont tout le monde avait envie. Alors, je l'ai déjà dit, ce n'est pas pour faire du bleu blanc rouge, mais là, en l'occurrence, ça tombe bien, c'est génial. Ça nous ramène un petit peu aux années Ligier. Se faisait fort d'employer des pilotes français, mais là il y en avait 4, 5, 6 sur la grille.
Ouais.
Mais c'était quand même un concept assez génial. Alain Prost a essayé un petit peu de faire ça, mais c'est pas allé jusqu'au bout parce que tu as dit le dernier, c'était les pilotes Ligier, justement. Mais là on repart, c'est un petit peu un hasard, mais ça tombe bien et surtout, ça, je trouve vraiment, ça renforce le label bleu, blanc, rouge. Et Luca De Meo, qui est le directeur général du groupe Renault. Veut faire une écurie tricolore et il parle en fait d'équipe de France, de Formule 1, et j'adore ce concept, vraiment, parce que les Italiens ont Ferrari, les Allemands ont Mercedes, les Anglais ont McLaren et Williams, ça ce sont des écuries qui ont des identités fortes finalement, et il faut travailler un petit peu cette notion-là, et pas simplement avoir une marque qui se veut internationale, ça c'est l'erreur qui a été faite avec Renault, je trouve, qui essayait de tout englober, qui parlait à tout le monde et en fait qui
Quand on parle à tout le monde, souvent on parle à personne.
C'est ça, tout à fait, pour les gens, parce que c'était trop international. Et là, on repart sur une base très simple et un postulat, c'est que l'écurie de Formule 1 est un outil de promotion, aussi la vitrine sport de la marque Alpine que Laurent Rossi, Luca De Meo ont décidé de faire renaître et de redynamiser. Et je trouve ça, déjà, c'est génial parce qu'on a aussi des Alpines routières qui auront vocation à être des concurrentes des McLaren, des Ferrari, etc. Et tout ça, c'est un projet global, je dirais, qui se tient.
Alors, pour tout vous dire, moi, je suis très content que Pierre Gasly rejoigne Alpine parce que je pense qu'avec un binôme Ocon-Gasly, Alpine est plus fort qu'avec un binôme Ocon-Piastri. Donc là, bonne opération.
Je glisse une petite stat d'ailleurs que tu m'as donnée en préparant l'émission, mais effectivement, tu m'as fait remarquer, ils ont deux vainqueurs de Grand Prix.
Oui, c'est sûr. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes.
Maintenant, c'est Ferrari Red Bull, c'est les deux seuls autres, donc c'est quand même pas rien. Avec ça, bon, écoute, tu as un bon concept.
Et puis, tu as deux leaders, parce que Ocon, quelque part, est censé devenir le leader de l'équipe Alpine, et il aura avec lui, et ça, il va falloir le gérer, un garçon qui, depuis au moins trois saisons, porte sur ses épaules une équipe de Formule 1, AlphaTauri. Alors, c'est peut-être plus tout à fait le même gabarit, le même format d'équipe entre AlphaTauri et Alpine, mais n'empêche que voilà, les épaules de Pierre Gasly sont larges et elles seront capables de supporter probablement. Maintenant, est-ce que c'est quand même pas un tout petit peu de blue washing? Vous savez, on parle souvent de green washing maintenant, les entreprises qui essayent de communiquer, de faire croire. Pour ne pas dire de mentir sur leur côté respect de l'environnement, des choses comme ça. Moi, je me pose un tout petit peu la question de savoir si, ça tombe très bien, la solution qu'on a trouvée, la meilleure solution, c'était de prendre un autre français, ça nous fait deux français, c'est une marque française. Oui, ok, d'accord, mais enfin, le châssis, il est quand même fabriqué à Enstone, jusqu'à preuve du contraire, et à moins qu'on relance Guillaume le Conquérant pour l'instant, Enstone, c'est toujours, c'est toujours en Grande-Bretagne, et c'est toujours pas en Normandie. Le patron s'appelle Otmar Szafnauer.
Tu forces très là quand même.
Non, si tu veux, tu vois, tu nous parles de Mercedes qui est allemand. Oui, mais... il y a deux pilotes britanniques. Tu nous parles de McLaren.
Ils sont
le patron, il est américain.
Ouais, tout à fait. Alors, pour te répondre, d'ailleurs, je vais faire un rapprochement avec une autre série, avec une autre catégorie. C'est vrai qu'il n'y a que Ferrari qui incarne complètement ce concept italien qui est génial, je trouve. Sous un même toit, châssis, moteur, point. Mais eux n'ont pas de pilote français, d'italien,
oui,
n'ont pas de pilotes nationaux.
Et ça fait longtemps.
Oui, parce que Ferrari disait que c'était trop de pression. c'est peut-être vrai aussi. Bon, voilà. Tu as peut-être noté aussi une chose, c'est que Alpine va faire les 24 heures du Mans en 2024. Et on n'en a pas parlé, mais je trouve ça génial. Il n'y a pas très très longtemps, le boss de Ferrari en endurance a dit « On verra si on prend aussi Charles Leclerc et Carlos Sainz l'année prochaine » aux 24 heures du Mans, parce qu'il n'y aura pas de date en Formule 1 le week-end des 24 heures du Mans. En tous les cas, il ne pousse pas pour ça, parce que la priorité, c'est mettre la voiture sur la piste, c'est l'éprouver, c'est commencer ce travail, et ça sera déjà juste d'être au point pour les 24 heures du Mans, on verra. Mais je trouve que ça ouvre aussi une participation de...
Alpine sera en 2024. Alpine,
voilà, c'est ça, avec Nicolas Pierre, par exemple, et tu as même carrément, non pas un doublé, mais un triplé, une triplette de pilotes français. Bon, ça aurait de l'allure, je dirais, voilà. Mais... Tu remarqueras que Ferrari aussi est engagé là-dedans et ils vont même encore un petit peu plus loin, eux, parce que, parenthèse, WEC, ils s'engagent avec un châssis de leur fabrication, en LMH. C'est-à-dire qu'ils tiennent à voir made in Ferrari sur le châssis, alors que Alpine va prendre un châssis Oreca, qui sera fait d'ailleurs par un ancien qui a été... assez rudement remercié, voilà. Donc c'est l'ironie de l'histoire. Bon, mais je dirais que tout ça, enfin, on en a envie. Ils ne vont pas vendre que des voitures, je dirais. C'est un concept bleu, blanc, rouge. Les pilotes y adhèrent. Tu as vu quand même les éléments de langage. Un petit peu, là, on les a bien briefés. Parce que les deux qui étaient réputés pour ne pas exactement s'entendre, je me souviens, quand Pierre Gasly a gagné à Monza en 2020, Les félicitations d'Esteban Ocon ont un petit peu tardé. Voilà, il a fait par SMS un petit peu plus tard. Voilà, et quand Esteban Ocon a gagné en Hongrie, c'était pas non plus hyper spontané. On a senti un petit peu qu'ils étaient en froid. Maintenant, ils tournent la page.
Oui, parce clairement, il faut comprendre.
C'est, on part de
ces deux garçons-là.
Sur de bonnes intentions.
Là, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ça, mais ces deux garçons-là viennent de la même région. Ils ont grandi ensemble et on les a
Évreux
tout le temps.
Évreux et Rouen, voilà.
On les a tout le temps comparés.
Alpine est une marque de Dieppe.
Hein, exactement. Mais donc, forcément, à un moment, ça crée une tension entre deux sportifs. Là, on ne parle même pas de Formule 1, on parle juste de sport. Quand vous êtes en concurrence comme ça depuis vos plus jeunes années, ça paraît inévitable qu'à un moment, vous finissiez par, allez, je vais employer un terme fort, haïr celui avec qui vous êtes en concurrence. Parce que forcément, quand vous gravissez les échelons, vous vous dites, il n'y aura pas la place pour nous deux en Formule 1. Par bonheur, oui, ils ont trouvé tous les deux. Par bonheur, non, par talent, ils ont trouvé tous les deux une place en Formule 1. Maintenant, c'est des adultes, c'est des hommes. On ne leur demande pas de partir en vacances ensemble, on leur demande de travailler ensemble. Ça ne sera pas simple quand même à gérer.
T'as prononcé le mot adulte, c'est exactement ce qu'a dit Laurent aussi. Il a dit qu'il attendait qu'ils se comportent comme des adultes responsables et qu'ils poussent dans la même direction. On n'en doute pas. Je veux dire, on a envie que ça marche, donc il n'y a pas de problème. Après, il y aura quelques étincelles, comme ça arrive parfois, mais ça, c'est la nature des choses. Mmh. Et ils ont dit chez Alpine que quand on va commencer à se rapprocher des premières places...
C'est exactement ce que j'allais dire. S'il y a des étincelles entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, c'est bon signe. S'ils s'entendent comme Laurent à foire, c'est qu'ils se battent pour la sixième place du championnat, et là, le pari sera loupé. Clairement.
Et les premiers tests, ça sera quand même les petits passages de consignes, je pense, l'an prochain, qui fonctionnent bien entre Alonso et Ocon, ce qui était déjà extraordinaire, parce que c'est quand même un modèle ce que nous propose Alpine en termes de fonctionnement, à part chez Red Bull où là c'est pas pareil, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, tout le reste c'est un peu des grincements de dents, on va dire, quand il faut travailler ensemble et avoir une notion de sacrifice, ça fonctionne, c'est déjà installé chez Alpine, ça veut dire que Gasly il arrive dans une boutique quand même qui tourne bien, il sait ce qu'il a à faire, il connaît le job, ils vont pousser dans le même sens, ils savent de toute façon que c'est bon, c'est un deal gagnant-gagnant pour Gasly et Ocon.
Et puis c'est une bonne chose aussi pour la Formule 1 en France et pour le sport mécanique en France, Stéphane.
Mais écoute, je fais le constat que on n'a pas le Grand Prix de France et c'est aussi quelque chose qui peut pousser dans ce sens-là vraiment. Alors chez Mercedes, ils n'ont pas non plus de Grand Prix d'Allemagne. Il y a des inconvénients un petit peu partout, mais ça c'est aussi ce qui peut, c'est un argument supplémentaire, je dirais, pour créer un engouement, quelque chose en France. On est au début, vraiment, il y a toute une histoire à construire. Si on regardait le plan, là, ils ont un plan sur 200 courses pour gagner. Bon, après, pour créer vraiment une communauté de fans, pour la dynamiser, on parle d'un objectif peut-être de 5 ans à 10 ans, parce que tu construis pas la même base de fans. En quelques mois, tu te retrouves pas avec être le pendant français de Ferrari, ça c'est juste pas possible.
Et puis, maintenant, le temps commence, ça fait un... Alpine s'est installé dans le contexte de la Formule 1. Donc maintenant, il faut continuer. Hein. Ce plan de 100 courses va continuer à avancer et on verra maintenant jusqu'où ça va aller. Alpine a récupéré, soit dit en passant, et on va terminer là-dessus, Alpine a récupéré la quatrième place du championnat des constructeurs aux dépens de McLaren sur ce Grand Prix du Japon. Ça aussi, c'est important.
Quand on voit surtout Esteban Ocon tenir en respect Lewis Hamilton, ce qui n'est pas le premier venu quand même
sous la pluie,
tu dis quand même qu'il se passe quelque chose, le package est bon. Pat Fry est un très très bon directeur technique, là maintenant il a une vision claire, il va développer la voiture, tout ça c'est, on ne nous parle plus maintenant de, alors si ils veulent recruter 75 personnes, donc ça c'est ça va renforcer l'équipe. Je dirais que Piastri c'était le dernier couac, on espère, maintenant tout est en place. On a hâte, c'est pas qu'on a hâte d'être à 2023, mais vraiment, il y a quelque chose d'intéressant qui se profile.
Pour terminer, on voulait vous parler aussi de ce qui s'est passé ce week-end au Mans, le GP Explorer, qui était une course donc organisée avec des Formule 4 sur le circuit Bugatti, course qui mettait aux prises des influenceurs et des youtubeurs. Course organisée par un des youtubeurs les plus connus qui s'appelle Squeezie, qui a terminé à la cinquième place. Et l'écurie du film Black Adam, et dont Eurosport et Discovery est partenaire, a terminé à la septième position. au-delà du résultat sportif qui, au final, est assez anecdotique, c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé ce week-end. Alors, déjà au Mans, 40 000 personnes autour du circuit.
Pour une course de Formule 4.
Pour une course de Formule 4 et avec une ambiance absolument phénoménale, ça a bluffé tout le monde. Plus d'un million de followers lors du direct sur Twitch pendant la course. C'est invraisemblable ce qui s'est passé ce week-end. Là, il y a un ovni qui est arrivé sur la planète automobile.
Ouais, tout à fait. Moi, ce que je trouve génial quand même, c'est que il se prenait pas au sérieux. Ça, il y avait beaucoup de sourires, de rires dans les préparations, mais en fait, ils donnaient l'impression de prendre ça un petit peu à la légère.
Ouais,
en fait,
tout ils ont pris ça très bien organisé
au sérieux, avec une super organisation en termes de course, en termes de réalisation. En fait, ils ont vraiment pris tous les codes du sport auto, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui, les caméras sur les voitures.
La réalisation télé, voilà. c'était
bluffant. Et puis, tu as les plans sur l'entourage, dans l'équipe, dans les garages. Ouais. Les gens qui réagissent, c'est ce qu'on voit aussi en Formule 1. Ils ont pris tous ces codes-là, tout ça fonctionnait bien. Le public, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que c'est bon esprit, c'est enthousiaste. C'était absolument génial. Donc, je dirais que tout ça, c'est une réussite absolument bluffante, vraiment. Et Gilles, en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait 22 pilotes sur la piste. Et il y a 5 ans, ils auraient été sur un terrain de foot.
Oui, ça, c'est ce que tu m'as dit. Et je trouve que c'était une très belle image.
Au Parc des Princes, dans un stade emblématique.
On aurait fait un match amical de foot.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, on organise une course auto.
Un grand succès aussi. Et là, ces influenceurs qui sentent un petit peu ce qui se passe, vers quoi vont les fans, à quoi ils s'intéressent, eh bien, ils ont tout à fait pris acte qu'il y avait une série qui s'appelait Drive to Survive. Voilà, c'est ça qui a passionné beaucoup de jeunes. Et ils se sont dit, banco, on fait une course. Et quand même, c'était assez gonflé, je dirais. Et c'est un tour de force, c'est une réussite totale. Et ça marque certainement, c'est le marqueur d'une époque.
Oui,
quand
clairement,
même,
clairement. Vraiment. Non, mais là, il s'est passé quelque chose. Et finalement, tu vois... la relation entre l'officialisation de Pierre Gasly pour faire une équipe française avec deux pilotes français en Formule 1 et cet événement avec 40 000 personnes autour d'une course de Formule 4 au Mans, cette coïncidence, je trouve que c'est un bon signe. Ça prouve que le sport auto en France, il attire beaucoup de monde, contrairement à ce
qu'on
veut.
On aime la course en France, tout à fait.
Contrairement
à ce
qu'on veut nous faire croire.
Tout à fait, ce qu'on nous matraque régulièrement. Alors après... Il y a aussi des préoccupations à avoir par rapport à notre époque,
sûr,
ça c'est
évidemment.
Clair, on les intègre, etc. Mais en tous les cas, on aime aussi ce mode d'expression et les jeunes vont vers la course auto quand même. C'est
plutôt bon signe.
Voilà, ça en est la preuve supplémentaire.
Je crois qu'on a tout dit, à part que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On est bon, Stéphane? On a beaucoup parlé encore aujourd'hui, mais de Grand Prix en Grand Prix, quand même, on nous donne quand même pas mal de sujets à évoquer.
Non, on a même parlé de Formule 4. C'est génial, franchement.
On a un peu moins parlé de chansons des années 80 par rapport à la semaine dernière.
C'est pas plus mal. Écoute.
Alors, du coup, si on a fait le tour, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.